Le ruban moucheté. Texte 2. Je m'appelle Hélène Stoner et je vis avec mon beau-père, qui est le dernier survivant de l'une des plus vieilles familles saxonnes de l'Angleterre, les Roylott de Stockmorton, à l'extrémité ouest du Surrey. Holmes hocha la tête. C'est un nom connu, dit-il. Autrefois, cette famille comptait parmi les plus riches de l'Angleterre. Son domaine s'étendait jusque dans le Berkshire, vers le nord, et dans le Hampshire, vers l'ouest. Au siècle dernier, cependant, quatre héritiers successifs dilapidèrent les biens et la ruine de la famille fut consommée à l'époque de la Régence par un joueur. Tout ce qui fut sauvé se résume à quelques hectares et à une maison qui a 200 ans et qui est écrasée par une lourde hypothèque. Le dernier propriétaire y traîna une existence misérable, celle d'un aristocrate ruiné. Mais son fils unique, mon beau-père, comprit qu'il devait s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Il obtint un prêt de l'un de ses proches, réussit dans ses études de médecine et alla s'établir à Calcutta. À force de persévérance et grâce à ses qualités professionnelles, il se fit une importante clientèle. Toutefois, dans un accès de colère et sous le prétexte que quelques vols avaient été commis dans sa maison, il battit à mort son majordome, un indigène, et il échappa de peu à la peine capitale. Il demeura de longues années en prison, puis il regagna l'Angleterre. Ce n'était plus qu'un homme aigri, un raté. Pendant que le docteur Roylott était aux Indes, il avait épousé ma mère, Madame Stoner, jeune veuve du major général Stoner de l'artillerie du Bengale. Ma sœur Julie et moi étions jumelles, et nous n'avions que 2 ans lorsque notre mère se remaria. Elle jouissait d'une fortune considérable, ses revenus s'élevaient à près d'un 1 000 000 de livres par an. Elle avait tout légué au docteur Roylott pendant que nous vivions avec lui, sous la réserve d'une disposition au terme de laquelle une certaine somme devait nous être versée annuellement en prévision de notre mariage. Peu après notre retour en Angleterre, ma mère mourut. Elle fut victime, voici 8 ans, d'un accident de chemin de fer près de Crewe. Le docteur Roylott abandonna alors son idée de s'établir à Londres et nous emmena dans la maison de ses ancêtres à Stockmorton. Ma mère nous avait laissé suffisamment d'argent pour nos besoins. Tout semblait indiquer que les soucis nous épargneraient. Mais un terrible changement s'opéra bientôt en notre beau-père. Au lieu de nouer des relations d'amitié avec nos voisins, qui s'étaient tous réjouis de revoir un Roylott de Stockmorton dans la vieille maison, il s'enferma chez lui. Il ne sortit guère que pour se prendre de querelles avec quiconque paraissait devoir ne pas lui céder le pas. Dans les hommes de cette famille, la violence du tempérament poussé jusqu'à la manie était héréditaire. Pour ce qui était de mon beau-père, une telle disposition n'avait pu que s'amplifier sous les tropiques. Une série de rixes, peu honorables, se produisit. 2 d'entre elles eurent leur épilogue devant le tribunal correctionnel. Il devint la terreur du village. Les gens s'enfuyaient à son approche, car il est d'une force herculéenne et il ne se contrôle pas quand il est en colère. La semaine dernière, il jeta le maréchal Ferrand par-dessus le parapet du pont dans la rivière. J'ai dû donner tout l'argent dont je disposais pour éviter une nouvelle comparution en justice. Ses seuls amis sont bohémiens. Il les autorise à camper sur ces terres envahies par les ronces et il accepte parfois l'hospitalité de leurs tentes. Il va même jusqu'à faire route avec eux certaines fins de semaine. Il a aussi une passion pour les animaux des Indes. Un correspondant lui en envoie régulièrement. En ce moment, il a un guépard et un babouin en liberté dans son domaine. Ces bêtes, autant que leur maître, terrorisent les villageois. Vous pouvez déduire de tout cela que ma pauvre sœur Julie et moi-même n'étions guère heureuses. Les domestiques ne voulaient pas rester chez nous. Pendant longtemps, nous avons été obligés de faire tout le travail de la maison. Julie n'avait pas 30 ans lorsqu'elle mourut. Et cependant, ses cheveux avaient commencé à blanchir comme les miens sont en train de le faire. Votre sœur est morte donc ?
Oui, il y a de cela 2 ans. Et c'est de sa mort que je voudrais vous parler à présent. Vous comprenez que, menant l'existence que je vous ai dépeinte, Ne nous voyons guère de gens de notre âge ou de notre rang. Pourtant, nous avions une tante, une sœur non mariée de ma mère, Mademoiselle Honoria Westphal, qui habite près de Harrow, et nous obtenions de temps en temps la permission d'aller la voir. Il y a 2 ans, pour Noël, Julie se rendit chez elle et elle fit la connaissance d'un major de la marine. Ils se fiancèrent. Quand ma sœur rentra à la maison, elle apprit à notre beau-père ses fiançailles et il n'éleva aucune objection. Mais 15 jours avant la date fixée pour les noces, un terrible événement me priva de ma seule amie. Sherlock Holmes s'était enfoncé dans son fauteuil et la tête posée sur un coussin, il avait fermé les yeux. Mais à ce point du récit, il entr'ouvrit les paupières et jeta un bref coup d'œil à notre visiteuse. « Soyez bien précise dans les détails, murmura-t-il. Oh, cela ne sera pas difficile. Tout est resté gravé dans ma mémoire. Je vous ai déjà dit que notre manoir était très vieux. Une seule aile est habitée. Dans cette aile, les chambres à coucher sont au rez-de-chaussée, car les salons se trouvent dans la partie centrale du bâtiment. La première de ces chambres à coucher est celle du docteur Roylott. La seconde était celle de ma sœur, la troisième la mienne. Entre elles, pas de communication directe, mais toutes les trois donnent sur le même couloir. Suis-je assez clair ? Parfaitement clair. Les fenêtres de ces trois chambres ouvrent sur le jardin. Cette nuit-là, le docteur Roylott s'était retiré de bonne heure. Mais nous savions qu'il ne dormait pas, car ma sœur avait été incommodée par l'odeur des cigares de l'Inde, très fort, qu'il fumait habituellement, et elle avait quitté sa chambre pour passer dans la mienne. Nous avions bavardé sur son proche mariage. Vers 11 heures, elle s'était levée pour partir, mais au moment d'ouvrir la porte, elle s'était arrêtée et avait regardé derrière elle. « Dis, Hélène, tu n'as jamais entendu quelqu'un siffler quand il fait nuit noire ?»«
Jamais, lui répondis-je. » »«
Je suppose que pendant ton sommeil, tu ne pourrais pas te mettre à siffler, n'est-ce pas ?»«
Certainement pas, Julie. Mais pourquoi ?»«
Parce que ces dernières nuits, j'ai entendu, toujours vers les 3 heures du matin, et distinctement, un sifflement à demi étouffé. J'ai le sommeil léger et ce sifflement m'a réveillée. » Je ne puis pas te dire d'où il provient. Peut-être d'à côté, peut-être du jardin. Je me demandais si tu ne l'avais jamais entendu.
Non, jamais.
Ce doit être ces maudits romanichels sous les arbres.
Vraisemblablement. Pourtant, si cela venait du jardin, tu l'aurais bien entendu aussi.
J'ai le sommeil moins léger que toi.
Oh, peu importe après tout.
Elle me sourit. Sortit, referma la porte et je l'entendis verrouiller la porte de sa chambre.
« Vraiment ?» interrogea Holmes. « Aviez-vous l'habitude de vous enfermer ainsi la nuit ?»«
Chaque nuit. »«
Et pourquoi ?»«
Je crois que je vous ai parlé du babouin et du guépard du docteur Roylott. »«
Nous ne sentions en sécurité que lorsque nos verrous étaient mis. »«
Ah, parfait. Poursuivez, je vous prie. » »« Cette nuit-là, je ne parvenais pas à m'endormir. » »« Un pressentiment me troublait. » Je vous rappelle que nous étions jumelles, ma sœur et moi, et vous savez combien sont forts et subtils ces liens que tresse la nature. C'était d'ailleurs une nuit affreuse. Le vent hurlait, la pluie battait les vitres. Soudain, parmi tout le vacarme de la tempête, jaillit un hurlement sauvage d'une femme dans l'épouvante. Je reconnus la voix de ma sœur. Je sautai à bas de mon lit, m'enveloppai d'un châle, me précipitai dans le couloir. Au moment où j'ouvris ma porte, il me sembla entendre le sifflement étouffé que ma sœur m'avait décrit, puis 1 ou 2 secondes plus tard, un son métallique, comme si un lourd objet de métal était tombé. Tandis que je courais dans le couloir, la porte de ma sœur s'ouvrit et tourna lentement sur ses gonds. Frappé d'horreur, je regardais, je ne savais qui allait sortir, puis la silhouette de Julie se profila dans la lumière de la lampe du couloir, sur le seuil. La terreur avait retiré tout le sang de son visage. Elle agitait les mains pour appeler à l'aide. Sa tête se balançait comme si elle était ivre. Je m'élançai, glissai mes bras autour d'elle pour la soutenir, mais ses genoux se plièrent et elle s'effondra par terre. Elle était secouée de convulsions, comme quelqu'un qui souffre effroyablement, et son corps était arqué. D'abord, Je crus qu'elle ne m'avait pas reconnue. Mais quand je me penchais sur elle, elle me cria d'une voix que je n'oublierai jamais. « Ah, mon Dieu, Hélène, le ruban! Le ruban moucheté !» Il y avait autre chose qu'elle aurait voulu me dire, et elle pointa du doigt vers la chambre du docteur Hoylott. À ce moment, un nouveau spasme la saisit et lui retira le pouvoir de parler. Je me ruai vers la chambre de mon beau-père en l'appelant de toutes mes forces. Il sortait hâtivement en enfilant sa robe de chambre. Quand il arriva près de ma sœur, elle avait perdu connaissance. Il desserra ses dents pour lui faire avaler un peu de cognac. Il eut beau envoyer chercher le médecin du village, elle sombra lentement dans le coma et elle mourut sans revenir à elle. Voilà comment je perdis ma sœur bien-aimée. « Un instant, dit Holmes, êtes-vous sûr d'avoir entendu le sifflement et le bruit métallique? Pourriez-vous le jurer ?» Ce fut ce que me demanda le coroner pendant l'enquête. J'ai vraiment l'impression d'avoir entendu cela. Toutefois, avec le déchaînement de la tempête et tous les craquements dans cette vieille maison, il se peut que je me sois trompée. Votre sœur était-elle habillée? Non, elle était en chemise de nuit. Dans sa main droite, elle tenait un bout d'allumette consumée. Dans sa main gauche, une boîte d'allumettes. Ce qui indique que quand quelque chose l'a alarmée, elle a allumé une allumette et a regardé autour d'elle. C'est important. Et quelle conclusion a tiré le coroner? Il a mené l'enquête avec une grande minutie, car l'inconduite du docteur Roylott était depuis longtemps notoire dans le pays, mais il a été incapable de trouver une cause plausible du décès. Mon témoignage a indiqué que la porte avait été verrouillée de l'intérieur, que les fenêtres étaient protégées par de vieilles persiennes pourvues de grosses barres de fer et fermées chaque nuit. Les murs ont été sondés avec soin, ils ont paru d'une solidité à toute épreuve. Le plancher a été pareillement examiné et sans résultat. La cheminée est large, mais elle est barrée par 4 gros crampons. Il est certain, par conséquent, que ma sœur était seule quand elle trouva la mort. Par ailleurs, on ne décela sur son corps aucune trace de violence. Et a-t-il été question d'empoisonnement? Les médecins y ont songé, mais leur examen a été négatif. Selon vous, de quoi donc a pu mourir cette malheureuse jeune fille? Je crois qu'elle est morte de frayeur, d'un choc nerveux. Mais qu'est-ce qui l'a effrayée? Voilà ce que je ne puis imaginer. Y avait-il des Romanichel dans le domaine cette nuit-là? Oui, il y en a toujours, ou presque toujours, dans le domaine. Ah, et comment interprétez-vous l'allusion au ruban moucheté? Tantôt je crois qu'elle délirait, tantôt je me demande si elle ne désignait pas les bohémiens. Peut-être les mouchoirs multicolores dont ils serrent leur tête lui avaient suggéré cet étrange adjectif? Holmes secoua la tête. Visiblement, cette explication ne le satisfaisait pas. « Nous nageons dans les eaux très profondes, » fit-il. « Voulez-vous continuer votre récit ?» 2 années s'écoulèrent ensuite, et jusqu'à ces tout derniers temps, ma vie n'avait jamais été plus solitaire. Il y a un mois, un ami très cher que je connais depuis longtemps m'a fait l'honneur de me demander ma main. Il s'appelle Armitage. Percy Armitage. C'est le 2e fils de M. Armitage de Cranwater, près de Reading. Mon beau-père a donné son accord à ce projet. Nous devons nous marier dans le courant du printemps. Avant-hier, quelques réparations ont été entreprises dans l'aile ouest du manoir. Le mur de ma chambre a été percé, si bien que je me suis vue dans l'obligation de me transporter dans la pièce où mourut ma sœur et de dormir dans le lit qui fut le sien. Imaginez mon épouvante quand la nuit dernière, ne dormant pas et méditant sur la terrible fin de Julie, j'entendis subitement dans le silence de la nuit le sifflement étouffé qui avait précédé sa mort. Je bondis du lit et allumai la lampe, mais en vain, je ne vis rien. J'avais trop peur pour me remettre au lit. Aussi, je m'habillai. Et dès que l'aube vint, je me glissai dehors, pris un cabriolet à l'auberge de la Couronne, juste en face de la maison, et j'ai roulé vers les Arêtes, d'où j'arrive, dans le seul but de vous voir et de vous demander conseil. « Vous avez bien fait, » opina mon ami. « Mais m'avez-vous tout dit ?»«
Oui, tout. »«
Non, mademoiselle Stoner, vous ne m'avez pas tout dit. Vous couvrez votre beau-père. »«
Quoi ? Que voulez-vous dire ?»
Pour toute réponse,
Holmes releva un petit volant de dentelle noire qui recouvrait le poignet de notre visiteuse. 5 petites taches livides s'y étalaient. Indubitablement, les marques de 4 doigts et d'un pouce. « Il vous traite bien cruellement, » dit Holmes. Helen Stoner rougit et recouvrit son poignet. « C'est un homme dur, » murmura-t-elle. « Il ne connaît pas sa force. » Un long silence s'ensuivit. Holmes, le menton appuyé sur les mains, regardait brûler le feu. « Voilà une affaire très complexe, » dit-il enfin. « Il y a des milliers de détails sur lesquels je voudrais bien être fixé avant de décider d'un plan d'action. Mais nous n'avons pas de moment à perdre. Si nous nous rendions aujourd'hui à Stockmorhan, pourrions-nous voir ses chambres sans que votre beau-père le sache ?»« Justement, il a parlé d'une course importante qu'il doit faire aujourd'hui en ville. Il est vraisemblable qu'il sera absent toute la journée et qu'il ne vous dérangera pas. Nous avons une bonne à présent, mais c'est une vieille femme un peu folle. Je pourrais très bien la tenir à l'écart. » « Bien, pas d'opposition à cette excursion, Watson. » « Aucune opposition. Alors nous viendrons tous les deux. Que faites-vous maintenant ?»« Une ou deux emplettes, je vais en profiter puisque je suis à Londres. Mais je serai de retour à temps pour vous accueillir. Je prendrai le train de midi. » « Nous arriverons au début de l'après-midi. Moi-même, j'ai une matinée occupée par quelques affaires. Vous ne voudrez pas que je vous fasse servir le petit déjeuner ?»« Non, merci. Je me sens tellement plus légère depuis que je vous ai confié ce que j'avais sur le cœur. Je veillerai à ce que tout soit en ordre pour vous recevoir cet après-midi. » Elle rajusta sa voilette noire et sortit. « Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Watson ?» demanda Sherlock Holmes en se renfonçant dans son fauteuil. « Il me semble qu'il s'agit d'une affaire sombre et sinistre, non ?»«
Assez sombre et assez sinistre, oui. Toutefois, si cette dame ne se trompe pas quand elle assure que le plancher et les murs ont été sondés et que la porte, la fenêtre et la cheminée sont infranchissables, alors sa sœur a été certainement seule quand elle a trouvé cette mort mystérieuse. Que faites-vous dans ce cas des sifflements nocturnes et des dernières paroles très bizarres de la mourante ?»
« Rien, je ne peux rien dire. Quand vous combinez les idées de sifflement pendant la nuit, de la présence d'une bande de Romanichel très liée avec ce vieux docteur, le fait que nous avons toutes les raisons de penser que le dit docteur est intéressé à empêcher le mariage de sa belle-fille, l'allusion de la mourante à un ruban, et finalement le fait que mademoiselle Helen Stoner a entendu un bruit métallique, lequel pourrait avoir été causé par la chute de l'une de ses barres de fer, qui protège les persiennes et qui serait revenu à sa place, je crois qu'il y a de fortes chances pour que l'énigme tourne autour de ses bases. Mais qu'ont fait les bohémiens alors? Je ne peux pas l'imaginer encore. Je vois poindre beaucoup d'objections contre une telle théorie. Moi aussi, et voilà pourquoi nous allons partir dès aujourd'hui pour Stockmorhan. Je vais m'assurer si ces objections ont un caractère inéluctable ou si elles peuvent être levées d'une façon quelconque. Mais qu'est-ce qui se passe de par le diable ?